France Info.
Bonjour Michel Serre.
Bonjour.
Michel Serre, la semaine passée, nous parlions des valeurs et vous nous disiez qu'il y a trois grandes valeurs, le beau, le bon et le vrai. Et vous nous disiez que toutes ces valeurs se remplacent progressivement par la valeur argent et que toutefois le bien a l'air de résister avec notamment des efforts pour la paix. Cette semaine, la vocation. Vocation, c'est en quelque sorte le destin, une force profonde qui vous conduit vers un but. Être prêtre, s'occuper des autres, être médecin pour ce qui est des irrésistibles besoins de servir. Mais on peut aussi être un bel ébéniste ou un brillant ingénieur ou chercheur, un compagnon du devoir, c'est-à-dire avoir des dons si intenses qu'ils conduisent naturellement sur un parcours ou une vie professionnelle ou privée remarquable et évidente. Vous avez entrepris une vie de marin, vous êtes devenu philosophe, professeur, je suis devenu journaliste, aviateurs, ce sont des vocations qui ont guidé nos pas et ont mené à notre rencontre inattendue. Alors Michel, l'origine de la vocation est-elle bien difficile à expliquer ?
Pas du tout, parce que le mot vocation en latin veut dire simplement appeler, c'est-à-dire entendre une voix. Vocation, c'est la voix. Par conséquent, cette voix appelle. Elle appelle à tout ce que vous avez dit. C'est pas tout à fait un destin, c'est quelqu'un qui vous appelle. Et tout le problème est de savoir qui nous appelle, vous voyez ? Et Rousseau, par exemple, dit, c'est la voix de la conscience individuelle, comme si elle nous a invoqués. Eh bien, j'ai envie de dire que lorsqu'on dit, et vous l'avez cité, avoir la vocation en termes religieux, et en particulier chrétien, c'est que quelqu'un vous appelle à rentrer dans les ordres, à devenir moine ou prêtre séculier, mais qui vous appelle là ? C'est évidemment Dieu qui vous appelle, ou Jésus-Christ qui vous appelle, donc on sait parfaitement qui vous appelle, on entend cette voix, et on la suit quasi aveuglément. Par conséquent, il faut de toute façon essayer de trouver qui appelle, parce que la vocation religieuse, bon, on sait qui c'est, enfin on sait qui c'est, on croit savoir qui c'est, mais de toute façon, dans les autres cas plus laïques, si vous voulez, qui est-ce ? Eh bien voilà, je vais vous le dire moi qui c'est. Du temps que j'étais écolier, je restais un soir à veiller dans notre chambre solitaire, devant ma table vint s'asseoir un orphelin vêtu de noir, qui me ressemblait comme un frère. Ça s'est muché, vous savez, la nuit, et là on voit très bien qu'il y a un double du poète qui s'assoit là et qui peut-être est en train de lui parler. Alors voilà, il y a un jumeau là qui vous parle et qui vous appelle. Est-ce que c'est sérieux cette affaire ?
Ben, pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? C'est-à-dire que dans la religion égyptienne, il n'y avait pas seulement le corps et l'âme comme chez nous, il y avait le corps, l'âme et le ka. K-A, qui voulait dire le double. Nous avons un double. Et ce double-là, il est connu depuis toujours. C'est l'archange Raphaël qui guide Tobie dans son voyage et qui le soigne. C'est l'ange gardien des religions chrétiennes. C'est les confidents des tragédies classiques. Et puis, il y a des écrivains qui l'ont mis en scène vraiment. C'est-à-dire, quand Rousseau écrit le neveu de Rameau, il parle à son double et c'est le double qui lui parle. Vous voyez ? Quand Maupassant évoque le Horla qui est hors de lui et qui entraîne dans des choses abominables, en particulier l'incendie de sa maison, c'est bien, c'est un double qui est là et qui l'amène à faire quelque chose. Alors ce double peut se matérialiser parfois dans un roman de Giono qui s'appelle Les Grands Chemins. Le double s'appelle l'artiste et il y a une sorte de tension entre lui et l'artiste. Mais il y a mieux que ça. Comment se fait-il que certains auteurs et certains acteurs prennent des pseudonymes ? Par exemple, Pascal, que j'ai cité la dernière fois, signe tous ses opuscules scientifiques de noms différents. Comme s'il y en avait un autre qui parlait à sa place. Comment se fait-il que M. Poquelin se soit fait appeler Molière, que M. Arouet s'est fait appeler Voltaire, que Michel Morgan ait pris ce nom alors que ce n'est pas le sien, etc. Comme si c'était un autre qui écrivait à sa place, comme si quelqu'un, une autre femme jouait à sa place. Et je crois que c'est une longue tradition, c'est une tradition écrite, c'est une traduction, etc., mais qui est éprouvable. C'est-à-dire, c'est vrai que quand on parle en public, par exemple, on monte sur l'estrade et tout d'un coup, quelqu'un parle. Et on a l'impression que ce n'est pas soi, que c'est un autre qui parle, vous voyez. De la même façon, une cantatrice ou un acteur monte sur la scène et d'une certaine manière, c'est son pseudonyme qui parle. Eh bien, je crois même moi-même avoir cette expérience-là, de dire « Mais qui a donc fait ces livres-là » Vous voyez, alors que j'y ai sué sans et haut toute ma vie à les faire, mais j'ai toujours l'impression que c'est
quelqu'un d'autre.
Voilà. Un autre qui l'a fait, et qui a guidé ma main, et qui a guidé ma tête, etc., qui m'a forcé à me mettre à table, à écrire, vous voyez, et ce double-là existe.
Michel Serre, merci. Retrouvez le sens de l'info sur franceinfo.fr. À dimanche prochain pour nos adieux. et je signale la parution de notre dernier petit ouvrage, Défense et illustration de la langue française, qui reprend un certain nombre des chroniques que nous avons faites pendant ces dernières années.